Chapitre 5. Je voudrais maintenant parler de Taoufraïm, le fils présumé du Mahdi Shari des Imlias. Je serais très reconnaissant aux partisans des neuf évangiles d'Éphren, dont je sais qu'ils sont très nombreux parmi nous, de bien vouloir me laisser aller jusqu'au terme de mon raisonnement qui, étayé par des arguments scientifiques, tend à démontrer que la plupart des miracles attribués à Taoufraïm ne recouvrent aucune réalité, mais ne sont que l'expression d'un inconscient collectif exalté par les disciples phraïmiques. Ne protestez pas, je vous en prie. Vous aurez plus tard tout le loisir de contester ma version des faits. Mon premier exemple sera le premier miracle, quelle coïncidence, n'est-ce pas, imputé à Taoufraïm. Les neuf évangiles prétendent, je cite, qu'il vola une aquasphère de liaison à l'âge de 5 ans, resta 7 jours et 7 nuits à fond de cale sans manger ni boire, puis débarqua clandestinement sur le quai du port de Corallion. Il aurait ensuite assisté à l'office hebdomadaire, contré l'action d'effacement des scaïtes, effacé l'effacement, disent les évangiles, là se situe le miracle, et provoquer une véritable émeute. Et puis il retourna tranquillement sur l'île où l'attendait sa mère et, je cite encore, les proscrits. Premier point contestable, les proscrits justement. Les anciens compagnons de Niki avaient été remplacés depuis un bon moment par un bataillon composé de skaïtes d'Hipponéros et de mercenaires de Prétive. Deuxième élément de contestation. Selon les évangiles, cet épisode est survenu en l'an 20 de l'Ang Empire. Or, à cette époque, Taoufraïm était âgé de 3 ans et non de 5. Troisièmement, Taoufraïm et sa mère faisaient l'objet d'une surveillance étroite, permanente, de la part des skaïtes, et n'auraient eu donc aucune possibilité de quitter le corail sans que ces derniers en eussent immédiatement été informés. Si les phraïmiques continuent de s'agiter de la sorte, je vais être obligé de faire évacuer la salle. Il est envisageable, voire probable, qu'Oniki ait été assassiné par les mercenaires de Prétive, après l'extermination des serpents géants et l'effondrement du bouclier, et que Taoufraïm se soit réfugié sur les mondes du centre. J'ai en ma possession des preuves de son passage sur les planètes Markina et Isigore. Parlons maintenant du deuxième miracle, le miracle dit des 12 faveurs. Conférence publique et houleuse d'Anatole Oujak, historien et érudit néo-européen, auteur des biographies contestées et probablement contestables de Sri Lumpa, du prince Jek des Yens et de Taoufraïm.
Tu as enfreint mes ordres, Jetatskin, et tu as fait planer un terrible danger au-dessus de nos têtes, au-dessus des 4 cryogénisés de Syracusa, au-dessus de l'humanité tout entière.
Les yeux noirs de Shari lançaient des éclairs et sa voix, étrangement calme, était aussi tranchante qu'un sabre. Comme pour l'aller, le transfert de Jek entre Ugen et Terra Mater s'était effectué sans étape intermédiaire, directement du système d'Arès au système solaire. Enfermé dans la chambre de la maison d'Otanjor, il s'était assis sur le lit des faits, avait repoussé les attaques de panique et avait établi le silence intérieur. Les bruits de pas et de voix des mercenaires de Prétive lancés à sa poursuite s'étaient estompés. Une bouche de lumière bleue s'était ouverte. Un courant d'une puissance inouïe l'avait happé et projeté à travers l'espace et le temps. Il avait repris connaissance sur la rive du torrent. Une fatigue intense l'avait cloué sur l'herbe humide et il lui avait fallu plusieurs heures pour réussir à se lever. En fin d'après-midi, bien que ses jambes fussent encore flageolantes, il avait regagné à pied l'ancien village des pèlerins. En dépit de son épuisement, il s'était senti d'une légèreté infinie, comme imprégné de la volatilité des flux éthériques. Il avait perçu la voix de Yel dans les murmures du vent. Il avait entrevu ses cheveux dans l'or déclinant du soleil. En revanche, il n'avait pas eu le courage de se frayer un chemin dans l'épaisse végétation qui cernait le buisson du fou pour aller se recueillir quelques instants devant les fleurs brillantes. Le Mahdi Shari l'attendait dans la maison de Sri Lumpa et de Nayafikit, assis devant la cheminée de la pièce principale. Des brindilles d'un végétal inconnu parsemaient ses cheveux, sa barbe, sa tunique et son pantalon de lin. Ses yeux traversés de lueurs sombres et ses mâchoires crispées annonçaient un orage imminent. Ses colères étaient d'autant plus redoutables qu'elles étaient rares. Il avait levé sur l'Anjorien un regard à la fois soulagé et courroucé. « D'où viens-tu ?»«
Du Djen ?»
avait répondu Jack, qui avait contenu tant bien que mal une subite montée de larmes. Il s'était tout à coup rendu compte qu'il avait pris des risques inconsidérés en s'éloignant de Terra Mater. Il avait cru que la puissance de l'Antra le préservait des inquisitions mentales, mais l'Escaït était parvenu à le repérer, à le suivre, à lui tendre un piège. Non seulement ils avaient failli le capturer, mais ils avaient probablement pillé les informations renfermées dans son cerveau. À cause de lui, il savait maintenant que Shari n'était pas un produit de l'inconscient collectif, une simple illusion, mais un être de chair et de sang qui s'était réfugié sur une petite planète bleue d'un système à une étoile. Son imprudence leur vaudrait au Mahdi et à lui de vivre sur un qui-vive permanent, de ne plus jamais goûter le repos. Désormais, les forces impériales, téléportées par Dermat, pouvaient surgir sur Terra Mater à tout moment.
« Va te reposer », avait repris Shari d'une voix dure. « Nous en reparlerons demain. »
Jack ne se l'était pas fait dire deux fois. Il s'était rué dans la chambre, s'était laissé tomber tout habillé sur le lit et avait dormi d'une traite pendant plus de 15 heures. Shari n'avait pas pour autant renoncé à sa colère. Il attendit pour la libérer que son petit compagnon eût récupéré de la fatigue de son voyage. Elle éclata dans l'ancien jardin de la maison alors que Jack venait tout juste de se lever et s'en allait prendre un bain dans le torrent. Écartant un rideau d'herbe folle, le Mahdi surgit devant lui et lui barra le passage.
« Ce n'est pas d'un enfant capricieux dont l'univers a besoin, mais d'un soldat. Cette guerre nous dépasse, Jet Atkin. Elle décide du sort de l'humanité tout entière. »
Sa voix puissante effraya une volée de moineaux qui s'envolèrent en poussant des piaillements aigus. En ces moments-là, il ressemblait à un buisson ardent. Le feu ne jaillissait pas seulement de sa bouche, de ses yeux, mais également de ses mains, de ses cheveux, de son ventre. Tétanisé, Jack eut l'impression que ses veines charriaient de la lave en fusion. Il ne chercha pas à répliquer. Il savait que cela ne servirait à rien et, surtout, il ne voulait pas offrir à Shari de nouvelles occasions d'attiser sa fureur. De plus, même s'il était conscient d'avoir commis une erreur, il restait au fond de lui-même persuadé qu'il avait eu raison d'obéir à son intuition, que ce retour aux sources avait été une initiation, une étape indispensable de son évolution. Il était désormais libéré du poids de son passé, libéré de son enfance, libéré de ses peurs.
« L'heure est venue de rassembler nos énergies et non de les disperser !» poursuivit Shari avec rage. « Comment puis-je compter sur toi si tu n'en fais qu'à ta tête? Comment Yel peut compter sur toi ?»
Jack baissa la tête et attendit que l'orage s'apaise. Il lui sembla alors que la colère de Shari était surtout tournée contre lui-même, que c'était ses propres tergiversations qu'il se reprochait, et qu'il parlait de Nikki lorsqu'il prononçait le nom de Yel. Le souvenir furtif d'une colère de Paatskin effleura l'esprit de l'Anjorien, et les joues rouges, les yeux exorbités, la voix outrageusement vibrante de son père lui apparurent à ce point ridicules qu'un gloussement s'échappa de sa gorge. Ce rire incongru prit Shari au dépourvu, qui se tut et enveloppa Jack d'un regard à la fois stupéfait et douloureux. Puis ses traits se détendirent, et il éclata de rire à son tour.
« Je te demande pardon, Jetatskin. Je continue de te traiter en enfant et tu es presque devenu un homme. Je t'ai négligé ces derniers temps. Mes pensées n'étaient pas avec toi. Elles étaient là-bas, sur Efren. »
Ses yeux se tendirent d'un voile trouble.
« Taoufraïm est maintenant âgé de 3 ans, poursuivit-il d'une voix où perçaient des éclats de tristesse. Il vit avec sa mère dans le cœur profond du corail. Il ne parle pas, mais il communique avec les serpents. Les Skaïtons ont encore renforcé la surveillance sur l'île de Psalion. »
Il posa la main sur les cheveux de Jek, en un geste empreint de délicatesse et de tendresse.
Je ne m'étais pas rendu compte que tu avais grandi toi aussi. Il est temps pour moi de tenir la promesse que je t'ai faite lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois.
La visite aux Analindik ?
S'exclama Jek. Un sourire s'esquissa sous la barbe clairsemée de Shari.
Le moment est venu d'aller les consulter. Je crois que tu es prêt, et nous n'avons que trop attendu. De toute façon, nous ne pouvons pas rester sur Terra Mater. Les forces impériales risquent à tout moment de débarquer.
C'est de ma faute,
se lamenta l'Anjorien. Le Skaït inquisiteur d'Anjor est entré dans mon esprit et...
Il n'est pas entré dans ton esprit,
l'interrompit Shari.
L'Antral en a empêché. Il t'a seulement entendu lorsque tu as parlé à tes parents.
Les yeux de Jek s'arrondirent de surprise.
Comment savez-vous que...
Je t'ai accompagné pendant tout ton voyage, Jek Atskin,
répondit Shari, visiblement ravi de son effet.
Je suis revenu d'Efren avant ton départ, mais je ne t'ai pas révélé ma présence. Je savais que tu souhaitais prendre ton envol. Et puis tu m'avais tellement parlé de ton monde natal d'Anjor et de tes parents que je mourais d'envie de les connaître.
Vous étiez là quand les mercenaires de Prithiv se sont précipités sur moi ?
C'était un risque à prendre. Si tu n'étais pas parvenu à dominer ta fatigue et tes émotions, tu n'aurais pas non plus réussi l'épreuve des Analindik, et tu ne serais jamais devenu un guerrier du silence.
Vous ne seriez pas intervenu s'il m'avait capturé ?
Une stupeur indignée sous-tendait la question de Jek.
Je n'en aurais pas eu la possibilité dans l'immédiat.
Pourquoi vous êtes-vous fâché contre moi, alors ?
Bredouilla l'Anjorien d'une voix que l'irritation restituait aux aigus de l'enfance.
J'ai accumulé tant de tensions ces derniers temps qu'il fallait bien que je passe ma colère sur quelqu'un.
Jek comprit alors que Shari ressentait de temps à autre l'irrépressible besoin d'exprimer sa propre angoisse, ses propres doutes, car la responsabilité écrasante qui pesait sur ses épaules et qui lui interdisait d'entrer en contact avec Oniki et Taoufraïm l'accablait, l'oppressait. Le départ de Sri Lumpa et la capture de Nayafikit l'avaient laissé seul face au Blouf. Il vivait en permanence sur le fil tranchant d'une lame. Il était le dernier lien entre l'univers et les hommes, l'ultime braise d'un feu sur le point de s'éteindre, et il devait sans cesse repousser la tentation du renoncement, ce vent sournois qui cherchait à le pousser dans le fleuve de l'oubli. Chacune de ses décisions, chacune de ses actions engageait l'avenir de l'humanité. Il ne pouvait jamais s'abandonner à la rêverie, à la paresse ou à la mélancolie comme se le permettait parfois, trop souvent, Jek. L'Anjorien prit conscience qu'il lui fallait désormais soulager Shari d'une partie de son fardeau, former avec lui une nouvelle entité, une structure indivisible, un atome, un noyau d'univers auquel viendraient s'amalgamer d'autres énergies, d'autres individualités. Comme l'avait affirmé le Mahdi quelques minutes plus tôt, l'heure était venue de rassembler les forces et non de les disperser.
Cette guerre exigeait un don de soi total, une vigilance et une volonté de tous les instants. Alors, comme s'il avait suivi le cheminement intérieur de son petit compagnon, Charry le saisit par les épaules et le pressa contre sa poitrine. Ils restèrent enlacés pendant un temps qu'ils auraient été incapables d'évaluer, immergés dans un flot d'éternité. Le soleil brillait d'un vif éclat dans son écrin céruléen. Les trilles des oiseaux et les frisellis des frondaisons sous la brise composaient une symphonie paisible, radieuse. Ils prirent un bain dans l'eau glacée du torrent, lavèrent leurs vêtements qu'ils étalèrent sur des rochers, puis s'allongèrent dans l'herbe. Une douce tiédeur envahit Jack, bercée par le murmure de l'eau. Ses pensées s'envolèrent une nouvelle fois vers Yel. Elle l'attendait sur Syracusa, sous un linceul de glace, et l'image de son petit corps inerte l'enracina dans sa détermination. Il jeta un regard dérobé sur Charry, couché quelques mètres plus loin, les yeux fermés, les joues brouillées de larmes. Ils passèrent leurs vêtements secs, s'assirent face à face, fermèrent les yeux, joignirent les mains et s'envolèrent sur les courants éthériques. Jack n'avait encore jamais expérimenté le voyage psychokinétique à deux, et la sensation de se dépouiller de son individualité le perturba à un point tel qu'il perdit brusquement le contact avec l'antra et se rematérialisa au beau milieu de l'enveloppe gazeuse d'une planète. Une chaleur intense l'enveloppa, et une vague de panique le submergea lorsque des émanations d'ammoniac, d'hélium et d'hydrogène s'infiltrèrent dans ses poumons. Suffoquant, il tomba en chute libre dans le cœur de la nuée rouge-orangée. Puis, il eut le réflexe de refermer les yeux, de rétablir le silence intérieur, d'invoquer le son de vie. Il se sentit de nouveau vibrer avec la fréquence énergétique de Charry. Il lui sembla percevoir un rire musical, une onde moqueuse qui se prolongea jusqu'au moment où ils réintégrèrent leur corps et se retrouvèrent légèrement étourdis sur le parvis d'une somptueuse porte de lumière. Cet arc brillant et monumental qui se découpait sur un fond d'infini n'appartenait pas au monde des formes, et cependant il n'était pas le fruit d'une illusion ou d'une simple projection mentale. Ils durent en franchir le seuil physiquement, comme ils auraient franchi une porte ordinaire. De même, c'est en marchant, exposés aux attaques de l'informe, qu'il leur fallut parcourir la route étincelante qui se déployait de l'autre côté, bordée de hautes et infranchissables murailles de ténèbres. La densité de lumière était telle qu'elle formait une substance solide sous leurs pieds. Jack avait l'impression de marcher sur un ruban surplombant le vide. Bien que Charry se fût placé devant lui comme un bouclier protecteur, il se sentait gagné par une peur atroce et luttait de toutes ses forces contre l'impulsion qui le poussait à rebrousser chemin. Un froid intolérable se diffusait dans ses cellules, s'attaquait à l'essence même de son être. Ce n'était pas lui qui affrontait le vide, mais le vide qui se diffusait en lui, qui le séparait, qui le déstructurait. Il tenta de se raccrocher au souvenir de Yel, puis à l'idée que Charry s'était présenté seul la première fois qu'il avait parcouru cette route. Il aperçut une construction rayonnante dans le lointain, le temple à sept colonnes, l'arche qui renfermait les annales indiques. Un cri d'émerveillement s'échappa de sa gorge. Il peinait maintenant pour suivre le Mahdi qui avait pressé l'allure. L'informe s'infiltra avec une virulence accrue dans son esprit, exhuma des souvenirs enfouis, stimula des pensées d'épouvante et d'horreur. La distance s'allongeait inexorablement entre Charry et lui. Les contours s'effilochaient, s'évanouissaient. Il discerna un murmure dans le lointain. « Résiste, Jack. Si tu cèdes, tu seras balayé comme une feuille morte par la tempête. Tu seras projeté sur un monde inconnu et il te faudra des années pour te réveiller. Peut-être ne trouveras-tu jamais en toi la force de revenir parmi les vivants. Peut-être seras-tu à jamais dispersé au vent du néant. Un torrent de haine emporta l'Andjorien. Shari lui apparut soudain comme un monstre de l'avoir contraint à subir cette épreuve. Cet homme qui se faisait passer pour son maître était en réalité son pire ennemi, un individu dangereux qu'il devait éliminer sans délai. Il fouilla avec fébrilité dans ses poches pour y dénicher une arme éventuelle, un couteau, une pierre, mais elles étaient vides, et de rage il creva le tissu à l'aide de ses ongles. « Résiste, Jacques !» Il jeta un coup d'œil devant lui. Il ne distingua ni la silhouette de Shari ni le temple aux sept colonnes, seulement les trois sentiers de lumière assiégés par l'incréé. Des lames de glace lui incisaient les nerfs. Il était tout entier empli d'une peur indestructible qui le fractionnait, qui le désagrégeait, qui le détournait de l'antra, qui l'éloignait de sa source. Le bord extérieur et tourbillonnant d'une spirale le happa, l'attira vers son cœur infiniment noir et froid. « Résiste, Jacques !» Qui donc lui parlait de la sorte? Résister à quoi? Il n'avait plus aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Dans l'enfer des Creusiens, peut-être. Le vague souvenir l'effleura d'être allongé dans un aérotomique des rats du désert. Ses pensées n'étaient plus que des courants épars, séparés les uns des autres par des abîmes de frayeur et de tristesse. Il était seulement conscient qu'il retournait au néant d'où il n'aurait jamais dû sortir, et la perspective de cet effacement n'éveillait en lui qu'une indifférence teintée de regret. Il ne mourait pas, car la mort n'était que la face cachée et indispensable d'un cycle. Il glissait seulement dans la non-vie, dans le vide absolu, pour l'éternité. « Résiste, Jacques. Pense à moi. Pense à Yel. » Yel. Ce nom éveilla instantanément un intérêt en lui, lui redonna un peu de cohérence. Il établit la relation entre le froid environnant et le corps inerte d'une fillette allongée sur des dalles de pierre. La spirale tournait de plus en plus vite. « Yel !» Un visage boudeur s'afficha quelque part en lui. Une chevelure ondulée et dorée, un front bombé, d'immenses yeux bleu-gris. Il se souvint qu'il aimait cette fille. Il avait entrepris un long voyage pour la délivrer de sa prison de glace. Il se reconstruisit peu à peu autour d'elle. Il renoua avec le fil de son existence. Il redevint Jack Atkin, le fils unique de Marek et Juliette Atkin. L'ami d'Artharak du Terrarium Nord, le fils du soleil de l'astroport de Galtinbat, le prince des hyènes du grand désert nucléaire du Djen, le passager du Xaxas, le disciple unique du Mahdi Shari des Imlias. Yel, ce nom claquait comme un défi jeté à la face du blouf. La spirale cessa de tournoyer. Et Jack foula de nouveau la lumière du sentier. Il percevait encore les attaques de l'incréé, ses tentacules ondoyantes et sournois qui s'insinuaient dans son propre vide. Mais l'antra vibrait dans son sanctuaire intérieur, le maintenait dans l'intégrité de son être et, bien qu'endormi, Yel veillait sur lui depuis son sarcophage d'isolation cryogénique de Vénitia. Il chercha du regard la construction rayonnante et fut étonné de constater qu'elle se dressait à quelques pas devant lui. Vue de loin, elle ne lui avait pas paru immense, mais de près sa perspective imposante, écrasante, le surprit. Les sept colonnes qui s'élevaient sur une hauteur de plus de 300 mètres soutenaient un immense fronton triangulaire aux éclats flamboyants et changeants. Les murs nébuleux s'ornaient à intervalles réguliers de formes géométriques qui se superposaient et éclataient en bouquets sans cesse renouvelés de couleurs chatoyantes et fugaces.
Jack parcourut en quelques foulées les derniers mètres qui le séparaient du stylobate et gravit les 12 marches de l'entrée principale, légèrement plus sombre que le reste du bâtiment. Envahi d'un bonheur indescriptible, il avait l'impression saisissante de marcher sur les rayons du soleil. L'atmosphère à la fois grave et légère qui régnait à l'intérieur du temple exalta son euphorie. D'autres colonnes, de gigantesques tourbillons de lumière plutôt que des colonnes, parsemaient le péristyle et se jetaient dans le plafond scintillant comme dans un ciel saturé d'étoiles. Chari l'attendait dans l'entrée du pronaos. Un sourire radieux illuminait son visage. « Bienvenue dans le dernier bastion de l'humanité, Jack Atkin. En 15 000 ans, seules 2 personnes sont entrées avant toi dans ce temple, le fou des montagnes et moi-même. Le fou est parti et les Annalindiques attendent leur nouveau gardien. »
« Ce n'est pas vous le nouveau gardien ?»
Sa voix s'envola comme un papillon sonore dans le silence.
« Je croyais que je l'étais, mais j'ai rencontré Aniki, et le gardien ne peut s'engager dans 2 directions à la fois. Il veille sur les annales pendant des milliers d'années, comme les hommes déchus veillaient autrefois sur le feu pour que jamais ils ne s'éteignent.
Elles n'ont peut-être plus besoin de gardiens ?»
« Toute chose en ce monde requiert un témoin pour justifier son existence. L'observé n'existe pas sans l'observateur. Privées de gardiens, les annales n'auraient aucune raison d'être, et si elles ne sont plus, l'humanité n'est plus. Entre mon père Tixou, ma mère Afikit et moi, les rôles ne se sont pas distribués comme prévu. » Et l'Hyponéros en a profité pour prendre un avantage décisif.
Les rôles prévus.
La chaîne de Linda a été rompue par les 3 maîtres précédents, Sri Mitsu, Sri Alexu et le Madi Sekoram. Le grand maître de l'ordre Apsurat a été assassiné avant d'avoir eu le temps de former son successeur. Les annales en ont informé le fou des montagnes qui, rompant sa neutralité de gardien, est entré en communication télépathique avec Sri Mitsu. Mais ce dernier, condamné et exilé par les Croisiens, a refusé de reconstituer la chaîne. Le fou est donc descendu sur Terra Mater, le berceau de l'humanité, et m'a initié aux techniques indiques en attendant que les nouveaux maîtres, Tixu et Afikit, les successeurs potentiels de Sri Mitsu et de Sri Alexu nous rejoignent et reforment la chaîne. C'était à eux de prendre le relais, d'achever ma formation. Mais ils étaient trop occupés à s'aimer, et ils m'ont laissé me débrouiller seul. Nous avons trop tergiversé. Le fou des montagnes a quitté ce monde, et la chaîne est définitivement rompue. Nous avons bouleversé les règles du jeu. Nous sommes entrés dans une ère nouvelle, à l'issue incertaine. L'action désespérée de mon père Tixu rééquilibrera peut-être le rapport des forces. En dépit du ravissement dans lequel le plongeait la beauté du temple, un sombre pressentiment étreignit Jack.
Qu'est-ce que risquent les hommes ?
Nous serons tous dévorés par l'incréé comme tu as failli l'être tout à l'heure. Nous nous évanouirons dans le néant comme si nous n'avions jamais existé. Nous n'aurons ni le souvenir ni la perception de nous-mêmes. L'univers, maintenu par la pensée humaine, s'effacera et avec lui toutes les formes, toutes les ondes, toutes les vibrations. Si nous sommes vaincus, Jack, le chant de la création s'interrompra à jamais.
L'Anjorien eut la sensation qu'un pic de glace lui transperçait le cœur, que le Blouf avait franchi les murailles lumineuses et rôdait autour de lui comme un fauve affamé autour de sa proie.
« Que devons-nous faire pour que ça n'arrive pas ? »
demanda-t-il d'une voix blanche.
« Je veux espérer que les annales nous donneront une réponse claire. »«
Elles ne l'ont pas encore donnée ? »
Elles en proposent d'innombrables, car l'humanité évolue sans cesse, mais leur multiplicité, leur volatilité et leur complexité rendent l'interprétation aléatoire.
Comment est-ce qu'on les perçoit ? On les voit comme une émission holo ?
En posant cette question, Jack pensa furtivement à l'écran bulle toujours éteint de la maison familiale d'Anjor, et la perspective de la dissolution définitive de Pa et Man Atskin dans le néant abandonna un goût étrange dans sa bouche.
« Viens, tu jugeras par toi-même. »
Ils traversèrent le Pronaos, un immense vestibule où ils s'enfoncèrent dans la lumière jusqu'aux genoux, comme dans la végétation nébuleuse et coruscante d'un jardin à l'abandon. Une similitude renforcée par l'aspect arborescent des colonnes. Jack décelait maintenant des bruits divers, confus, tantôt des vibrations soutenues qui évoquaient l'antra, tantôt des notes de musique, tantôt des exhalaisons qui ressemblaient à des lamentations étouffées. Lorsqu'ils pénétrèrent dans le Naos, Jack eut l'impression de s'introduire dans le cœur d'un diamant. Il dut garder les yeux clos pendant quelques minutes pour s'accoutumer à la luminosité. Ses paupières, son visage, son cou et ses mains captèrent des flux d'énergie d'une intensité telle qu'il contracta instinctivement les muscles de ses jambes pour ne pas être soulevé du sol. Les sons entremêlés composaient une symphonie dont la puissance, la tonalité et les harmoniques variaient sans cesse. Des images syncopées déferlèrent dans sa tête, des visages et des paysages inconnus se superposèrent aux visages de Pa et Man Atskin, d'Arthrarak, du viduc Papyronda, de Marty de Kervaleur, de Robin de Fart, de Yel, aux rues d'Anjor, au désert nucléaire d'Ugen, aux coursives du Papiduc, aux galeries de glace de Jer Salem, aux capitons de chair du Xaxas. Étourdi, couvert de sueur, il rouvrit précipitamment les yeux. Il constata que les sons étaient indissociablement liés aux milliards d'étincelles qui dansaient sur les innombrables facettes des parois, du sol et du plafond. Ce concert lumineux, ou ce déluge de lumière sonore, avait quelque chose d'à la fois majestueux et terrifiant. Les contours et le volume du Naos semblaient également sujets aux modifications perpétuelles. Jack avait parfois la sensation de se trouver dans une salle immense, illimitée, et parfois dans une pièce exiguë, comme à l'intérieur d'un myocarde qui se contractait et se dilatait sans cesse. L'Anjorien chercha le Mahdi des yeux comme pour se raccrocher à un élément stable, réel, et balayer la sensation tenace d'évoluer dans un rêve.
Shari n'était plus qu'une silhouette traversée d'éclats fulgurants. Le même étonnement saisit Jack que lorsqu'il l'avait découvert perché sur un rayon au-dessus du buisson du fou.
Il avait alors cru qu'un dieu en haillon était venu lui rendre visite sur Terra Mater, et il avait du mal à se persuader qu'il accompagnait ce même dieu dans l'arche des annales indiques. Il ne savait plus s'il devait combattre le puéril sentiment d'orgueil qui le gagnait. Les facettes des murs et du plafond fluctuaient, changeaient de forme et de superficie, et les rayons éblouissants qui tombaient d'invisibles lucarnes dessinaient des figures éphémères et complexes.
« Les Dewas, » murmura Shari, « les étincelles de la création. » Jack concentra son attention sur une facette, et instantanément, il se rendit compte qu'un monde habité par des millions d'hommes et de femmes vivait à l'intérieur de lui. Il entendit des millions de voix, perçut des millions de souffles, et leur détresse imprégna tout son être. Des centaines de milliers d'années plus tôt, ils avaient sombré dans un total oubli d'eux-mêmes et avaient donné à leur environnement l'exorbitant pouvoir d'influencer leur destinée. Ils avaient perdu le chemin de leur source. Ils avaient oublié leur flamme de vie qui brillait dans l'arche depuis l'aube des temps. Terrorisés par la mort parce qu'ils étaient gouvernés par leur sens, ils s'accusaient mutuellement de leur malheur et se saisissaient de tous les prétextes pour s'entretuer. Le Blouft n'avait eu qu'à se glisser dans les failles de l'humanité. Comme sur le sentier quelques instants plus tôt, l'incréé s'était appliqué à diviser, à séparer, à fragmenter. Il était parvenu à restreindre l'homme, à rabaisser le Créateur au niveau de sa création, à le comprimer dans l'espace et le temps. Puis il lui avait suffi d'exploiter à son profit les inventions humaines pour façonner ses propres clones.
Jack sentit nettement vaciller les étincelles, soufflées par une bouche invisible.
Les créatures de l'informe, les Skaïtes d'Hyponeros, achevaient le travail entamé depuis des millions d'années, depuis le commencement, depuis que la chaleur convulsive des 12 premières étincelles avait enfanté les ondes et les formes. Ils effaçaient la mémoire intemporelle des hommes. Un effacement implacable, mais qui s'accomplissait en douceur, sans souffrance, car la souffrance induisait un contraste et par conséquent une dualité, une tension créatrice.
Incapable de supporter plus longtemps la terrible angoisse qui le suffoquait, Jack détourna les yeux et observa une deuxième facette. Un autre monde se déploya en lui, une autre civilisation, un autre climat, d'autres couleurs, d'autres odeurs. Mais la perception dominante, persistante, restait celle de l'avènement d'une nuit éternelle.
La chaîne de Linda devait empêcher cette terrible issue, dit Shari comme s'il n'avait rien perdu du cheminement intérieur de Jack. Les maîtres étaient chargés de ramener les hommes sur le sentier de leur propre source. Mais au cours des siècles, ils se sont eux-mêmes fourvoyés sur des chemins de traverse. D'autres, des prophètes, des visionnaires, ont capté les vibrations des annales et ont transmis les fragments du Verbe à leurs contemporains. Mais l'incréé s'est tapi dans leurs paroles, et leurs disciples ont établi des religions fanatiques sur leur nom.
« Pourquoi le fou des montagnes est-il parti ?» demanda Jack. « Il aurait pu nous aider. »
Sa voix tremblait de désespoir contenu.
Il a repoussé l'échéance de toutes ses forces, mais il est arrivé au terme de son cycle d'homme, répondit Shari. Il est allé bien au-delà des limites de son rôle. Il avait perçu l'appel des autres mondes, avait accédé à un autre statut, et il aurait été dangereux pour les siens et pour lui d'intervenir dans les affaires humaines. Nous ne devons plus compter que sur nous-mêmes, Jack. Un pari à la fois exaltant et risqué.
Qu'allons-nous faire ?
Nous unir, former une entité indivisible et descendre dans les mécanismes subtils de la création. Peut-être serons-nous entendus et recevrons-nous une réponse plus claire que lorsque je m'y suis essayé seul. Tu es prêt ?
Jack acquiesça d'un battement de paupières. Ils joignirent les mains et établirent le silence intérieur. Ils n'eurent pas besoin d'invoquer l'antra. Il leur suffit de se laisser porter par les vibrations du Verbe, du son de vie, du cœur permanent qui s'élevait à l'intérieur du Naos.
Jack reprit conscience dans une pièce au mur recouvert d'un matériau lisse qui évoquait le métal.
Une bulle lumière éteinte flottait sous le plafond bas. Il distinguait clairement les formes en dépit de l'obscurité. Il n'était pas matériel. Il flottait, aussi volatile que l'air, au-dessus de 4 boîtes allongées et transparentes, à l'intérieur desquelles reposaient des corps inertes. Il reconnut d'abord Naya Fikit, et sa beauté rehaussée par l'étrange sérénité de son visage l'émerveilla. Puis il identifia Phénix, dont quelques mèches de la longue chevelure noire venaient mourir sur la pointe des seins. Le spectacle de San Francisco figé dans sa prison de verre l'emplit d'une émotion intense, d'autant plus déchirante qu'il n'avait pas la possibilité de la soulager avec des larmes. Ils avaient partagé la douleur de l'errance et de l'exil.
et pendant quelques secondes l'Andjorien dériva sur le flot de souvenirs qui le liait au prince de Jérusalem. Il contempla enfin Yel. Ses cheveux formaient un nuage doré, moussu et figé autour de sa tête. Elle s'était débrouillée pour conserver son air boudeur dans son sommeil de glace. Une teinte légèrement verdâtre délayait l'incarnat de sa peau. Des vénules sombres sillonnaient ses paupières closes. Il trouva détestable la manière dont les embaumeurs l'avaient exhibée. Ils auraient pu au moins couvrir le renflement impudique de sa vulve, qu'aucune pilosité ne dissimulait au regard, contrairement aux adultes. Elle lui parut plus petite que dans ses souvenirs, mais cela tenait probablement au fait qu'elle n'avait pas grandi pendant ces 3 années d'hibernation. Une subite impulsion le poussa à caresser le front de la fillette. Il n'eut pas d'autre choix que d'en rester au stade des intentions, car, privé de corps, il n'avait aucune possibilité d'intervenir dans les champs de matière. Il plana un long moment au-dessus du sarcophage, écartelé entre la joie de la revoir et la frustration de ne pouvoir la toucher. Une porte s'ouvrit soudain. La bulle s'emplit de lumière blanche et vint se placer au-dessus des sarcophages. Un réflexe stupide entraîna Jake à vouloir se cacher, puis il se rappela qu'il était immatériel, que les nouveaux arrivants, 2 hommes, n'avaient pas la possibilité de le voir. L'un était vêtu d'une chasuble et d'un col en corps blanc. À son doigt brillait un énorme corindon serti d'un anneau d'optallium. L'autre, plus jeune, avait passé une chasuble verte par-dessus un col en corps bleu nuit. Son visage disparaissait sous une épaisse couche de poudre blanche et 2 mèches torsadées s'enroulaient autour du faux liséré de son cache-tête. Jake n'aima pas le regard concupiscent qu'il lança au corps de Yel. L'Andjorien se demanda pourquoi les annales indiques l'avaient expédié dans cette pièce. Il ne glanerait ici aucune solution, aucune réponse. Shari, qui donnait l'impression de tout voir, de tout savoir, utilisait probablement ce type de transfert immatériel pour obtenir des renseignements et préparer ses interventions ultérieures. L'homme vêtu de blanc s'agenouilla, les bras en croix. Jake eut l'intuition qu'un invisible cordon reliait ce prélat aux 4 corps congelés, que son destin se jetait dans le leur comme une rivière dans un fleuve, et que ce fleuve se jetait lui-même dans un océan de lumière. Le 2e ecclésiastique, en retrait, adossé à un mur, jetait des coups d'œil dérobés et douloureux sur le sarcophage de Yel. Des pensées tourmentées le harcelaient, l'empêchaient de goûter à la paix de l'âme.
« Ne perçois-tu donc vraiment rien, mon cher Adaman ?» dit l'homme en blanc en se relevant.
« Cessez donc de me poser cette question, votre sainteté, » répliqua l'autre avec acrimonie. « Vous savez bien que je ne suis qu'un serviteur anonyme et médiocre du Kreutz. » Bien qu'il fût privé de ses sens, Jake voyait et entendait encore mieux que s'il avait disposé de son corps, comme si son enveloppe matérielle avait enfin cessé d'embarrasser son esprit. « J'ai ouï dire que le sénéchal Arcot vous avait prié de lui restituer ses criots, votre sainteté, » reprit le plus jeune. « Qu'allez-vous lui répondre ?»«
Je ne les lui donnerai pas, » affirma l'homme en blanc.
« À quoi vous sert de créer un incident avec le pouvoir temporel, puisque vous ne disposez pas des codes de réanimation ?»
« À quoi vous sert de poser des questions auxquelles je ne puis apporter de réponse ?»
Jake fut tout à coup aspiré par une bouche de lumière bleue. Les voix et les formes s'estompèrent, les 2 hommes et les sarcophages devinrent des points minuscules et brillants. Il entrevit encore un bâtiment flanqué de hautes tours, une cité illuminée, un globe, où dominaient les tons bleus et rouges. Puis il ne fut plus qu'une sensation grisante de vitesse et de chaleur. Le garçon âgé de 3 ans paraissait vraiment minuscule à côté des serpents géants. Les plus grands mesuraient une 20aine de mètres de la tête à la queue, mais En dépit de l'exiguïté des passages, il le frôlait avec une délicatesse étonnante, sans jamais le bousculer ni le renverser. Parfois, ils ouvraient la gueule, happaient prestement l'enfant et disparaissaient dans les tunnels étroits et sombres. Les premiers instants de surprise et d'effroi passés, Jack comprit que c'était de cette manière, dans leur gueule, qu'ils le promenaient d'un nid à l'autre du bouclier de corail, et cet étrange moyen de transport lui rappela le ventre du Xaxas. Il lui avait fallu quelques minutes pour établir le lien entre ce paysage, cet enfant, ces serpents et les confidences de Shari. Ezana Lindic l'avait à son tour expédié sur Efren pour rendre une visite immatérielle à Oniki et Taoufraïm. Bien que très différente de Naya Fikit, Oniki lui parut aussi belle que la mère de Yel, et il approuva le choix de Shari, choix qu'il avait jusqu'alors inconsciemment refusé, rencontrant certaines difficultés à admettre qu'un homme promis à un destin aussi grandiose préféra l'amour restrictif d'une femme et d'un enfant au salut de l'humanité tout entière, oubliant qu'il était lui-même suspendu à l'amour exclusif de Yel. Mais devant Oniki, il prenait conscience que sans elle, Shari n'aurait jamais eu la force d'aller au bout de lui-même, qu'elle était l'indispensable puits de tendresse dans lequel il venait se régénérer. Elle portait une robe faite de brindilles de lichen céleste, patiemment entrelacée, et dont la teinte brun rouille mettait en valeur l'éclat de ses cheveux et de sa peau. Elle avait élu domicile dans un nid de serpents qu'elle avait séparé en trois pièces à l'aide de tentures. Dans les chambres, elle avait installé des matelas confectionnés avec la bourre, la partie duveteuse, des lichens et garnis d'une couverture tramée. Taoufraïm et elle se nourrissaient des fruits coralliens, des excroissances oblongues, blanches et juteuses, qui poussaient dans le cœur du corail et dont les serpents étaient également friands. La vigilance des reptiles géants ne se relâchait à aucun moment. Une vingtaine d'entre eux accompagnaient Oniki et Taoufraïm dans chacun de leurs déplacements. De temps à autre, la jeune femme recouvrait ses réflexes de tutale, retirait sa robe et grimpait à l'assaut d'un tunnel vertical qu'elle nettoyait de ses déchets célestes. Elle s'occupait d'environ 30 tuyaux, dont certains avaient un diamètre de plus de 10 mètres. Les lumières bleues ou rouges des étoiles Taouxir et Xatimou s'y engouffraient avec voracité et tombaient en colonnes majestueuses sur l'île de Psalion et sur le moutonnement noir de l'océan Guigène. L'adresse et la vigueur d'Oniki étonnaient Jack. Elle se tenait en équilibre sur les parois arrondies des tuyaux à la seule force de ses doigts, modifiait sans cesse le centre de gravité de son corps collé comme une ventouse contre le corail. Tantôt, elle progressait à la manière d'une araignée, les bras et les jambes écartés. Tantôt, si le passage l'exigeait, elle se servait du seul levier de ses bras. Jake distinguait avec netteté le jeu de ses muscles sous la mince enveloppe de peau, les profonds sillons qui se creusaient sur la face externe de ses cuisses, le travail des triceps et des dorsaux, les resserrements et le relâchement des fessiers, les contractions puissantes du bas-ventre. Il fut également sidéré de voir avec quelle précision, quelle dextérité, quelle économie gestuelle, quelle grâce elle arrachait les bouquets de lichen prisonniers du corail et les jetait dans le vide. Elle était tellement concentrée sur son travail qu'aucun mouvement parasite ne venait troubler son escalade. Les serpents se glissaient dans des failles indécelables à l'œil nu, réapparaissaient quelques mètres plus haut et attendaient qu'elle fût à leur hauteur pour disparaître à nouveau. Elle se hissa sur le toit du bouclier et s'assit, ruisselante de sueur, sur le corail empourpré par les rayons de Taouxir, la naine rouge, et balayée par les vents de Houtin. Un serpent surgit d'une crevasse et s'approcha d'elle. Un sourire radieux illumina son visage, lorsqu'elle discerna la silhouette de Taoufraïm dans la gueule grande ouverte du reptile. Jack fut traversé par un désir puissant de se joindre à eux, de se dissoudre dans les flots d'amour et d'harmonie qui s'écoulaient de leurs yeux. Simultanément, il perçut les ondoiements de tentacules visqueux et froids autour de la jeune femme et de son fils. Et il eut le sentiment que les Skaïtes d'Hyponeros rassemblés sur l'île de Psalion ne tarderaient plus à passer à l'action. Puis sa vue se brouilla et un vortex céleste l'aspira. La sensation vertigineuse s'interrompit subitement. Il flottait dans une pièce sombre, meublée d'un matelas et de deux chaises de paille. Un drap écru recouvrait le corps d'un homme au crâne rasé allongé sur le matelas. Une femme, vêtue d'une robe empesée remontée jusqu'aux genoux, était assise sur une chaise. Jack se demanda ce qu'il fabriquait dans cette masure. Une tempête faisait rage dehors, comme en témoignaient les hurlements du vent et les crissements de minuscules cailloux sur le torchis des murs. Les yeux de la femme étaient dépourvus d'iris. Entièrement blancs, ils fixaient l'homme allongé sans vraiment le voir, ou plus exactement sans s'arrêter aux limites extérieures de son enveloppe corporelle. Dotée de perceptions extrasensorielles, elle regardait au-delà des apparences et contemplait l'âme à la fois noire et pure de son interlocuteur. Mais il y avait en lui une grande part de noblesse et une grande part de misère, comme s'il avait longtemps chevauché des destins contraires. La femme ne portait pas de jugement sur lui, car elle était trop clairvoyante pour réduire ses semblables à des sentences. Mais lui ne parvenait pas à se pardonner le gâchis de sa vie.
« Mes yeux ne peuvent pas me tromper, » répéta-t-elle. « Tu es l'un des 12 piliers du temple, l'un des 12 cavaliers de la rédemption. »
« Je ne suis qu'un pillard des monts Piaï, un trafiquant de chair humaine, un des salopards de Jankel Nanoufa, » répliqua-t-il d'un ton las.
Tu es également un chevalier Absurat, un homme qui canalise l'énergie. C'est de cette maîtrise dont l'humanité a besoin. Plus vite tu seras persuadé de l'importance de ton rôle, et plus les chances des hommes augmenteront d'échapper au sort terrible qu'il leur est promis.
Vous avez abusé des filtres de voyance, Imma.
Remercie Dieu qui m'a donné les pouvoirs de voyance. Si je ne t'avais pas protégé des hommes de mon village, tu serais mort dans d'atroces souffrances, et les vents de soufre auraient dispersé les morceaux de ton cadavre sur le plateau des Abras.
Un pli d'amertume se creusa au coin de la bouche de l'homme.
Vous auriez dû les laisser me tuer.
Elle haussa les épaules, se leva et fit quelques pas. Jack se rendit compte qu'elle ne distinguait pas les objets, les murs, les obstacles potentiels, mais qu'elle percevait leur fréquence ondulatoire, leur densité.
« Nous n'avons pas de temps à perdre, » reprit-elle avec colère. « Jankel Nanoufa ne va pas tarder à se lancer à ta recherche et à surgir ici avec ses hommes.
Pourquoi serais-je l'un des 12 élus ?»
Vous me paraissez nettement mieux qualifié que moi pour ce genre de... » Elle se retourna avec vivacité, se pencha sur le matelas et lui posa la main sur la bouche.
« Je serai l'arc, tu seras la flèche. »
Elle se redressa et d'un geste solennel, dégrafa sa robe qui glissa le long de sa poitrine, de ses hanches, de ses jambes, et s'affaissa à ses pieds dans un froissement étouffé.
« Puise en moi la force de conviction, » murmura-t-elle. « Nous serons liés à jamais. Je t'accompagnerai par la pensée, par le souvenir. Je serai là chaque fois que tu auras besoin de moi. »
Il laissa errer un regard brûlant presque douloureux sur ce corps dénudé, qui éveillait en lui bien davantage que du désir.
« Comment réagiront les gens de ton peuple
s'ils apprennent que tu as sacrifié ta virginité. L'ordre des Imas des Abrases a été créé dans le seul but de reconnaître le 12e cavalier de la rédemption. Et la virginité garantissait la pureté des voyances. Je t'ai reconnu ou... Je n'ai donc plus aucune raison de rester vierge. Les temps sont venus de l'union, de la fusion. Elle se glissa sous le drap et l'enlaça.
Jack se remémora les corps bruns et enchevêtrés de San Francisco et de Phoenix dans le cachot de Torial de Jérusalem. Il entendit à nouveau leurs gémissements, ces soupirs qui trahissaient une étrange douleur, et il se demanda s'il connaîtrait un jour ce genre de sensation avec elle. Il dériva sur ses souvenirs, traversa une nuée tourbillonnante et jaune, s'éleva au-dessus d'une planète ceinturée par une dizaine d'anneaux, sortit d'un système à étoiles doubles et erra dans l'espace insondable. Quelque chose bougea dans le lointain, une ligne grise parsemée de taches verdâtres et noires. Cela ressemblait à un vaisseau ou à un train de vaisseaux soudés les uns aux autres. Pour autant que Jack put en juger, il parcourait le vide interstellaire à une vitesse bien supérieure à celle de la lumière. Il se dirigea vers un appareil situé en queue de chêne, traversa les couches extérieures du fuselage où s'était incrustée une épaisse lèpre noire et verte, franchit des coursives, des cabines, des salles communes où s'agitaient de mystérieuses silhouettes dans la pénombre. Il capta des milliers de frémissements, des pensées émises par des milliers de cerveaux, et ressentit la nostalgie poignante, presque palpable, qui émanait d'eux. Ils vivaient dans une obscurité permanente, comme s'ils avaient perdu définitivement l'usage de la lumière. Il déboucha dans une minuscule cabine, se stabilisa au-dessus d'une couchette sur laquelle reposait une forme immobile et silencieuse. Deux éclats de lumière transperçaient l'obscurité, deux éclats qui semblaient provenir des profondeurs du temps. Le ronronnement sourd des moteurs faisait vibrer les cloisons et le plancher. Les yeux de la créature, il ne trouvait pas d'autre explication à ces lueurs aussi vives que des brandons, étaient chargés d'une telle intensité, d'une telle énergie qu'il prit peur et chercha instinctivement un endroit où se réfugier. Il pensa que l'abri le plus sûr était son corps, resté dans le naos du temple indique. Le bois crépitait et projetait de temps à autre des gerbes d'étincelles. Jack repoussa son assiette et vint s'asseoir devant la cheminée. La douce chaleur du feu était la seule nourriture dont il avait envie. Jarry et lui n'avaient pas repris conscience dans le naos, mais directement dans la maison de Srilumpa et Nayafikit. Épuisés par leur longue translation, ils étaient allés à tour de rôle s'allonger sur leur lit pour prendre un peu de repos. Les Skaïtes étaient désormais avertis de leur présence sur Terra Mater, et la menace constante que l'Hyponéros faisait peser sur eux les contraignait à établir des tours de garde. Cependant, tant d'images et tant de sensations s'étaient bousculées dans la tête et le corps de Jack qu'en dépit de sa fatigue, il n'était pas parvenu à trouver le sommeil. « Eh bien, Jack, que retires-tu de notre visite aux Analindiques ?» demanda Charry accroupi devant le seuil de la cheminée, affairé à tisonner la braise. Jack conserva son mutisme. D'une part parce qu'il se sentait trop fatigué pour ouvrir la bouche, et d'autre part parce qu'il ne trouvait rien à répondre. Il n'avait pas le recul nécessaire pour tirer un quelconque enseignement de l'expérience qu'il venait de vivre et qui accaparait encore toute son attention. « Est-ce que tu t'es rendu compte que nous ne nous sommes jamais quittés ?» reprit Charry. « Ni sur Syracusa, ni sur Éphrène. » Ni sur cette autre planète et ses anneaux, Sbarao probablement, ni enfin à l'intérieur de ce train de vaisseau. Bien que l'Andjorien n'eût à aucun moment détecté la présence de Charry à ses côtés au cours du voyage,
Cette information ne le surprit pas.
La voyante de l'anneau a parlé des 12 cavaliers de la rédemption, des 12 piliers du temple, ajouta Shari qui donnait l'impression de parler surtout pour lui-même.
J'avais déjà eu la révélation du nombre 12 lors de mes précédentes visites aux annales, mais je ne savais pas comment l'interpréter.
Et maintenant, vous le savez ?
Les flammes jetaient des lueurs mouvantes sur les murs et le sol. Le vent violent qui frappait à la porte et aux fenêtres annonçait un orage imminent. Shari se retourna et enveloppa Jack d'un regard bienveillant.
Entre compagnons de Linda, on se tutoie, Jack. Cesse de me considérer comme un professeur. Je serais honoré que tu me traites comme ton égal. Nous sommes deux à avoir pénétré dans les annales, et nous devons être 12. Comme les 12 cavaliers de la rédemption, comme les 12 piliers du temple. À 12, nous aurons une chance de vaincre le Blouf. Les annales nous ont montré 9 de nos futurs compagnons. Ma mère Afikit, Yel, San Francisco et Phoenix. Si nous parvenons à les délivrer et à les ranimer, Oniki et Taoufraïm. À cela, nous devons rajouter l'actuel moufti de l'église. Peut-être l'homme au crâne rasé. Un chevalier absourate selon la voyante. Et la créature que nous n'avons fait qu'entrevoir dans le train de vaisseau.
Elle m'a fait peur, s'exclama Jack.
En tout cas, cela fait 11, poursuivit Shari sans tenir compte de son intervention. Mais pourquoi les annales ne nous ont-elles pas montré le 12e?
Il fixa d'un air sombre l'extrémité évasée du tisonnier rougi par le feu.
Qui est le 12e ?